Bonjour tout le monde.
Et maintenant, au micro, nous avons... Tu peux te présenter ?
Il faut que je parle de l'amour.
Vous dites... Oui. Vous dites le mot, là, l'amour.
L'amour.
Ce soir, sur les ondes...
Vous êtes dans vos voitures, derrière votre poste radio.
Ah oui, ça va être enregistré.
Ça fait 15 ans qu'on est au Studio Zef.
Bonsoir et bienvenue sur les ondes de Studio Zef, qui... En ce début de soirée, a posé ses micros à la Halograin pour une heure de direct en ouverture de la 4e édition du festival Génération Climat. Du 15 au 21 janvier, des temps d'échange et de réflexion autour des enjeux environnementaux ainsi que des spectacles, des travaux d'élèves et d'étudiants, des expositions, vous donnent rendez-vous tout au long de cette semaine. Alors pour animer cette soirée d'ouverture, je suis en compagnie de Sophie. Salut Sophie.
Salut tout le monde.
Et puis de Sarah à la technique. Bonsoir Sarah. Alors avant d'accueillir au micro l'association La Vitrine Itinérante et son installation au fil de la Loire, le musicien Joub et son vélo, les étudiants de l'école de la nature et du paysage et leur questionnement autour de l'usage des espaces publics blésois, le collectif Mumosa et les élèves de terminale pour le projet de fresque en mosaïque, je passe tout de suite la parole à Frédéric Maragnani, directeur de la Halograin. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Alors comment ça se passe ce petit début de soirée là ? Comment vous le sentez, l'ambiance ?
Ça se passe plutôt bien parce que pour la 4e audition, il y a de plus en plus de monde. Donc on est vraiment très très heureux. On voit vraiment la montée en puissance du festival sur... moi c'est la 3e édition que je vis en fait comme directeur. Et on voit vraiment la montée en puissance du festival. Et voilà, et ça fait vraiment plaisir.
Et ce qui est très agréable aussi, c'est que c'est très jeune ce soir. Hein,
oui,
la moyenne d'âge.
Oui, absolument. Et ça aussi, c'est une montée en puissance avec des travaux notamment de l'école du paysage, vous avez pu le dire. Des travaux d'éthique, etc. Et on voit qu'il y a une prise de conscience sociétale, bien sûr, mais une prise de conscience aussi sur le festival et sur l'utilité de ce temps de réflexion et d'échange.
Est-ce que vous pouvez rappeler rapidement la genèse du projet ? Comment ça est né ?
Alors, l'idée de Génération Climat s'appelle Génération Climat parce qu'à un moment donné, ça n'existe plus maintenant, mais les jeunes descendaient dans la rue tous les vendredis, notamment pour manifester pour le climat. Ça, c'était avant le Covid. Le Covid, évidemment, a coupé un peu cette dynamique. Pour autant, la préoccupation dans la jeunesse, la préoccupation du climat est vraiment réelle. Je pense qu'il y a une vraie anxiété. Et nous, on est là aussi comme lieu culturel pour répondre quelque part à cette anxiété et pour la transformer en création, en culture, en artistique, en rêve. C'est-à-dire, en fait, de ne pas céder en fait aux sirènes de uniquement l'anxiété comme ça, sur le climat, etc., mais de pouvoir imaginer des choses, pas forcément avoir des solutions, mais en tout cas imaginer des choses et pouvoir vivre en tout cas cette bifurcation écologique qu'on est en train de vivre, parce qu'elle est importante, elle est très importante, je pense qu'elle le sera de plus en plus, et c'est important effectivement que ça fasse partie aussi de notre bien commun.
Oui. Et est-ce que vous pouvez rappeler le partenariat, enfin les différents partenariats, parce qu'il y a du monde quand même sur ce projet. Alors il y a beaucoup, si j'ai bien compris, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits aussi avec les écoles sur le territoire du Loir-et-Cher, mais pas seulement apparemment, parce que j'ai cru comprendre qu'il y a aussi des intervenants de Tours qui sont venus travailler avec les élèves.
Absolument. Oui, il y a évidemment les partenaires principaux, on va dire, de Génération Climat, c'est l'école de la nature et du paysage, c'est l'école d'art de bois, c'est l'éthique, c'est le DN Made, qui vraiment font partie effectivement de nos partenaires et qui permettent aussi d'être en connexion avec aussi avec les travaux, avec la création artistique. Après, c'est vrai qu'on a énormément de partenaires aussi, France Ville et Territoires Durables, qui est un partenaire nouveau cette année. Le président Christophe De Gruel, président de l'agglomération, parlait juste à l'instant. En fait, c'est une association qui réunit des communautés d'agglomération et des communes et qui réfléchissent en fait au développement durable de ces agglomérations et communes. Et pour la première fois, ils ont mis en place un groupe de travail culture, c'est-à-dire de se poser la question de comment la culture peut également irriguer la question de la bifurcation écologique. Comment elle peut être là? Comment elle n'est pas en fait quelque chose qui est à côté, qui est perçu comme élitiste ou riche ou on va dire un peu le mieux-disant quand on a du temps en fait, mais que en fait la culture est vraiment à l'intérieur même de toutes les questions aussi sociétales de bah, comment on vit, comment on se déplace, comment on mange, comment on s'habille, comment on produit. Et donc ce partenariat avec France Ville et Territoires Durables, c'est vraiment passionnant parce que moi je découvre beaucoup de choses par exemple sur des artistes qui travaillent aussi sur toutes les questions éco-poétiques, et on a d'ailleurs vendredi une journée en fait sur l'éco-poétique où on va se réfléchir sur comment les artistes non seulement inventent des façons différentes de créer. Donc par exemple pour le spectacle vivant, ça veut dire qu'est-ce qu'on construit, est-ce qu'on construit des décors, est-ce qu'on construit des costumes, est-ce qu'on alors le collectif L'Avantage du Doute qu'on reçoit vendredi et samedi par exemple, ils ont fait ce spectacle encore plus partout tout le temps en faisant que de la récupération. Donc ils arrivent, ça commence comme ça d'ailleurs, ils en fait nous on a bah, derrière en fait c'est une forêt parce que c'est la toile de l'opéra de Lyon, on a des toges parce qu'en fait c'est la Comédie Française qui nous a donné des toges, donc en fait ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on raconte, mais on est en toge, voilà, et ça voilà, ça c'est vraiment c'est absolument passionnant en fait de voir comment les artistes inventent aussi.
Alors, merci beaucoup pour cette introduction à l'ouverture de ce festival. On a été rejoints donc par deux étudiants qui sont Marion et David, c'est ça ? Voilà, il y a le temps qu'ils prennent le micro. Sophie, je te passe la parole.
Alors, bonjour Marion et David. Vous représentez le collectif La Vitrine Itinérante.
C'est bien ça.
D'accord, c'est vous qui avez fait le lien sur un projet collectif qui associe des étudiants, des habitants de la ville. Si vous pouviez nous en dire plus.
Alors, on a choisi de travailler sur le projet Tufting parce qu'on est très intéressé par la question du climat. Et en fait, quand la Halogra nous a proposé de travailler pour eux, on s'est intéressé à cet art nouveau qu'est le tufting, la création de tapis. On a essayé de faire ça en collaboration avec la ville de Blois, avec les étudiants de l'école de la nature et du paysage, mais aussi avec tout à chacun qui souhaite participer au projet.
Quel est ton rôle dans cette association, Marion ?
Moi, je suis en service civique.
D'accord. Et qu'est-ce qui t'a fait choisir comme service civique une association de ce style ?
Beaucoup de choses. Déjà, les valeurs que prône l'association. La Vitrine Itinérante, c'est vraiment une association qui est créée par des étudiants de l'école. Notre leitmotiv, en fait, c'est de travailler ensemble, de trouver des choses qui nous animent et de pouvoir travailler sur ce qu'on souhaite, en fait, de s'amuser en prenant des valeurs de partage. Et c'est quelque chose qui me plaisait énormément. Et en parallèle, moi, je fais un métier qui est très protocolaire. Je suis infirmière. Alors, je trouvais ça génial d'avoir ce contraste-là de quelque chose qui est très protocolaire avec vraiment des informations spécifiques, avec la Vitrine Itinérante qui, elle, est vraiment dans la liberté d'expression et dans l'échange.
Quand tu parles d'une école, de laquelle parles-tu ?
De l'école de la nature et du paysage.
Merci.
Pardon.
David.
Bonsoir.
Bonsoir.
Donc moi, je suis étudiant en cinquième année à l'école de la nature et du paysage. Et, il y a 4 ans, on a monté avec quelques amis cette association dont le but était de faire du lien entre les étudiants de l'école, les anciens étudiants, d'autres étudiants de la ville de Blois, les habitants, les institutions publiques et les associations de la ville. Et donc, à travers différentes événements dont on est porteur et dont on a envie d'explorer. On a fait différents événements qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. On a eu l'occasion de faire des ateliers, workshops sur le thème de la ville de Blois, de son rapport avec la Loire. La plupart de nos événements sont toujours en lien avec l'urbanisme ou le paysage. Donc c'est une façon en fait d'aller présenter, de communiquer, de partager ce qu'on apprend à l'école, à l'extérieur, à notre manière.
Quel est le lien entre justement l'école du paysage et tout ce qui est le questionnement du climatique à l'heure actuelle ? Est-ce que c'est un sujet qui vous émeut beaucoup ?
Je pense que la question climatique, elle est centrale dans notre formation actuelle. Le métier de paysagiste, c'est un métier qui a énormément évolué et qui évolue encore. La question climatique, elle est prépondérante dans ce métier parce que on travaille à la fois sur l'urbain, mais aussi sur le grand territoire. Et c'est vraiment l'un des outils sur lequel on doit travailler avec. Donc le but du paysagiste, c'est de travailler au bien-être des habitants d'une ville ou d'un territoire. Mais on ne peut pas le faire juste pour les habitants. Il faut prendre en compte l'environnement. Et donc si on est dans un environnement qui change et qui est en mouvement, il faut essayer d'anticiper ce changement. Et donc c'est ce qu'on essaye de nous apprendre, mais je pense que c'est un métier qui va encore évoluer dans les années qui arrivent. Et donc nous, ce qu'on essaye de faire aussi avec la vitrine itinérante, c'est d'accompagner, comme le disait Frédéric tout à l'heure, c'est comment l'art peut aussi être un outil pour réfléchir à et accompagner ce changement. Et donc, auprès des habitants, comment on peut co-construire une vision du futur et comment on a envie de vivre ensemble la ville de demain.
Est-ce que tu peux juste nous en dire un tout petit peu plus sur la technique que vous avez choisie pour ce projet particulier, le tufting? Pourquoi et qu'est-ce que c'est?
Alors le tufting, c'est une technique de réalisation, de création de tapis. Et donc ça avec un outil qui ressemble à un pistolet qui vient avec une aiguille rentrer et sortir dans un canevas, dans un tissu qui est tendu à la verticale. Et donc c'est un outil qui vient rentrer et sortir dans la maille avec un ciseau intégré qui permet de... Voilà, donc En fait, c'est comme un peu du coloriage, on vient dessiner, mais avec de la laine. Et donc on a choisi cette technique parce qu'elle est à la fois manuelle, elle permet de co-construire à plusieurs personnes un projet. Et donc là, on a fait les trois tapis ensemble, donc projet partagé entre des habitants et des étudiants de l'école.
Comment vous avez pu impliquer les habitants dans votre projet ?
Alors on fait de la communication sur notre compte Instagram, donc ça s'appelle tout simplement la vitrine itinérante, et aussi par le bouche à oreille.
D'accord. Donc vous êtes l'idée d'intégrer les habitants, pourquoi ?
J'ai peur d'être long, mais je vais faire très court. Donc,
allez, en une minute.
En une minute. En fait, si on veut, l'école du paysage, pendant très longtemps, elle était ouverte, enfin elle l'est toujours, elle essaye de l'être, ouverte sur la ville. Le hall de l'école il y avait la bibliothèque au rez-de-chaussée et la cafétéria qui était autogérée par les étudiants, qui l'est toujours aussi. Et donc tout un chacun pouvait venir. Alors, en plus, l'école est juste dans la chocolaterie Poulain, juste à côté de la gare, pardon. Et donc les gens pouvaient venir prendre un café, aller prendre leur train, etc. Et depuis quelques années, il y a le plan Vigipirate qui fait que c'est compliqué, c'est plus difficile de rentrer. C'est toujours possible, mais c'est moins intuitif. Et donc le but de la vitrine itinérante, c'était plusieurs choses. C'était de comment, si les habitants ne peuvent plus venir à l'intérieur, comment nous, on va à leur rencontre à l'extérieur. Et donc on est parti du constat que dans le centre-ville de Blois, il y a énormément de boutiques vacantes, et malheureusement de plus en plus. Et donc comment... En tant qu'étudiant, en tant qu'habitant, parce que nous on est là pendant au moins 5 ans, donc on devient de vrais habitants de la ville, il y en a même qui restent de temps en temps. Et donc comment on vient à notre échelle, parce qu'on n'a pas d'objectif énorme, mais comment on vient à notre échelle investir culturellement en partageant ce qu'on apprend et ce qui nous tient à cœur, participer à la vie culturelle de la ville.
Voilà. Eh ben, je vous remercie pour votre témoignage, c'était très intéressant. Véronique, une question ?
C'est-à-dire qu'il y a pas mal de gens qui doivent passer au micro, là, il y a Joub qui attend. Donc justement, on va faire une pause musicale avec la musique de Joub. Merci beaucoup à tous les trois et bon festival.
Merci à vous.
Merci, bonne soirée.
Filipina sinu kyokalisao kung makakpunga tisimay pingasyo inaksimasyot maklo kung miyakat ang ayokat kita mga may dinyak tisyo kut iririsin nga nakpungut 아빠랑이랑아 중요 품에 그모석 딱봉아 그모석 내놓아 나요 안나미고 아가마가 왔어머리 아따든닝아니 아마가도니고 아고니아가 가오시떠요 싹봉아 이노니니
Bonsoir et bonsoir à ceux et celles qui nous rejoignent sur le plateau de Studio Zef en direct à la Halle aux Grains pour une heure de direct en ouverture de la quatrième édition du festival Génération Climat. Vous pouvez venir si vous êtes chez vous, vous avez envie de bouger par cette magnifique soirée d'hiver. Hein, je veux pas du printemps, mais d'hiver quoi.
Il faut quand même remarquer que cette fois-ci, ouais, le temps est raccord avec la saison.
Ouais, c'est ça. On va s'en réjouir.
Moi, je pense qu'il faut savourer.
On va s'en réjouir. Et nous accueillons Joub.
Bonjour
Joub.
Bonsoir
Sophie,
Joub.
Je te passe la parole.
Ah, elle m'a prise par surprise.
Ouais.
Surprise.
Alors, Joub, tu es donc musicien en priorité ou tu es un voyageur du monde? Dis-nous.
Oh, belle question. Je mets la musique en premier, hein, c'est sûr, c'est le premier moteur. Ensuite, ça fait quand même un petit moment que je bouge, on va dire. J'ai fait mon premier voyage, je me rappelle, au Mali. J'avais à peine 18 ans et c'est un voyage, j'en ai pas fait beaucoup, mais qui a été très formateur, qui a donné un mood pour la suite.
Comment tu as voyagé à ce moment-là?
À ce moment-là, en avion.
En avion.
Eh oui.
Comment voyages-tu maintenant?
À vélo. Et ça me fait mal de le dire, mais quand même un peu encore en avion, malheureusement.
Oui.
Mais en tout cas, j'ai fait l'effort d'inclure dans ma pratique de musicien le vélo et l'inclure jusqu'à aller de faire ce vélo, c'est un instrument de musique.
Comment ça t'est venu l'idée d'utiliser ton vélo comme un instrument de musique? C'est pas très intuitif.
Non, c'est vrai, c'était il y a 5 ans. Ça a fait suite à une prise de conscience assez forte et assez violente de notre impact et mon propre impact sur l'environnement. Il y a 5 ans, je savais qu'il y avait des problèmes de pollution au sens large, mais je ne savais pas qu'on allait à ce point-là dans le mur. Donc ça m'a quand même un peu pétrifié, cette histoire-là. Et de cet état-là en est venue l'idée ou l'envie de faire différemment, en tout cas agir sur le transport dans ma pratique. C'est un endroit sur lequel je peux agir. J'ai la main sur comment je fais la musique et j'ai décidé d'en faire une histoire.
À quel moment tu t'es dit on va droit dans le mur? À quel moment ça t'a pris au trip? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un événement particulier?
Alors, c'était il y a 5 ans, un peu avant le Covid, là. C'était la période horrible où il y avait plein de giga-documentaires sur YouTube, où c'était une succession de paroles de spécialistes sur le climat qui faisaient vraiment une succession de paroles vraiment malaisantes sur le fait qu'on allait droit dans le mur. Ça m'avait foudroyé. Mais je pense que ça a été un bon moteur pour moi. Je pense que ça ne l'est pas pour tous. Mmh. En tout cas, pour moi, ça l'a été.
Spontanément, quand on parle musique électronique, c'est ton domaine, hein. Mm-hmm. Moi je ne relierais pas ça justement au respect de la nature exactement. Or, tu vois, il y a une espèce de décalage a priori qui me vient comme ça parce que ouais. L'utilisation de l'électricité, etc. Mm-hmm. Comment tu vis ça?
L'utilisation de l'électricité, c'est pas simple. Moi, je comprends ce que vous dites là, le côté électro. D'ailleurs, le mot électro veut dire énergie, veut dire on utilise des ressources. Mais en fait, ce projet-là, il est né de l'envie de faire un effort, on vient de le dire, sur mon empreinte, notamment sur le biais du transport. Mais il y avait aussi l'idée de faire la fête. Mmh. Et pour moi, la fête, ça passait beaucoup par aller en club et dans ces endroits-là où on est avec des gens qu'on connaît pas et qu'on festoie. Et la musique électro, pour moi, elle fait ce travail-là, quoi, de réunir et de fêter. C'est toute une question de bilan carbone et de qu'est-ce qu'on utilise quand on fait les choses, parce que dans n'importe quel concert qu'on fait, même si c'est un concert classique, des fois, il y a des enceintes. Donc j'utilise ces enceintes comme un autre groupe en fait, et oui. La musique électro fait ça.
D'accord. C'est vraiment, on a ce côté génération, enfin le fait de se retrouver ensemble aussi dans ce que vous expliquez.
Bah c'est important, sinon on pleure en fait. faut bien qu'on fête un peu, sinon on va pas bien quoi.
Alors quand on arrive à la halle au grain, une des premières choses qu'on voit, c'est le vélo.
Et ouais.
Qu'est-ce qu'il fait sur la scène, ce vélo?
Qu'est-ce qu'il fout sur la scène, ce vélo? Bah, comme je disais, tout ça m'a amené à faire de la musique avec un vélo. Le vélo, il garde sa fonction première de vélo, mais sa deuxième fonction, ou sa fonction, son autre fonction, c'est celle d'un son de musique. Alors, par plein de biais différents, soit sur une partie acoustique, je peux jouer des baguettes, des percussions, de la basse électrique, j'ai tendu une basse le long du cadre. Des sonnettes, j'ai sonorisé un maximum. Je récupère des textures sonores quand je fais tourner le pédalier du vélo. Enfin, je vais dans cet exercice de comment on arrive à produire des sons avec un vélo acoustiquement. Il y a aussi une partie numérique, c'est-à-dire que j'ai fait mes propres contrôleurs MIDI, donc avec des boutons, potards, faders, comme on peut voir sur les tables de mixage. J'ai construit en perçant des trous dans ma selle, des boutons, des choses qui m'aident à agir sur la musique électro.
Il y a certains morceaux de musique qui s'appellent, par exemple, on a passé tout à l'heure un morceau qui s'appelle Glace.
Ouais.
Il me semble que tu as un autre morceau qui s'appelle Bois. Mmh. Tu travailles donc avec ces éléments en allant chercher des sons qui sont en rapport avec cette matière.
Exactement.
Donc tu rencontres, j'imagine, des artisans. Voilà. Donc qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans?
Alors, c'est ça, un des troisièmes pans, si je peux dire, du projet, c'est le fait d'aller baser mes compositions sur des rencontres que je fais. C'est pas forcément des artisans, Mais j'aime bien l'idée qu'il y ait une musique qui naisse d'une rencontre, soit avec une personne ou alors un environnement, et que j'enregistre cet environnement pour créer ma propre palette sonore. En plus de ça, ça m'amuse, ça m'émeut un peu le fait de jouer ma musique à partir des sons que je vais enregistrer et des sons qui ont finalement été enregistrés dans une action qui est celle de rencontrer, d'écouter les gestes des personnes que je rencontre.
Est-ce que justement ce fameux vélo qui a aussi la fonction de vélo comme tu disais, ça veut dire que régulièrement tu montes dessus, tu prends la route, ouais. Et tu as des objectifs ou tu vas un petit peu au hasard comme ça, au feeling ?
Alors, y a plusieurs choses, il y a les dates que je fais ponctuellement, par exemple pour venir ici, donc je suis de vers Lyon, j'ai pris le train, j'ai mis le vélo dans le train. Constamment, mon vélo sort de chez moi avec les bagages arrière remplis de matériel pour aller à un endroit, que ce soit une gare ou alors faire le trajet complètement à vélo. C'est le cas d'une tournée qui va se passer du 10 juin en partant du festival des Nuits de Fourvière jusqu'au festival des Tombées de la Nuit à Rennes. Là, c'est un itinéraire complètement à vélo, voilà, 3 semaines de vélo. Complet. Il y a plusieurs options, on va dire.
Oui. Alors, j'ai observé que tu avais une chaîne YouTube, hein, et quand on va sur sa chaîne, on a des sons qui sont vraiment tirés de tes rencontres. Tu as fait une session sur le Groenland, tu as fait une session sur les vaches. Mm-hmm. Enfin, on a vraiment du son brut. Hein.
Ouais.
Comment tu choisis ces sons que tu réexploites ? Parce que c'est du son brut, mais j'imagine que tu as un enregistrement. Des heures d'enregistrement, en fait. Comment tu choisis ?
Ouais, ça, c'est un peu abstrait. Disons que j'essaye de faire quand même relativement le moins de prises possible quand je me déplace. Et ensuite, j'ai une grosse phase qu'on appelle de dérochage, ou alors je vais aller écouter mon matériel, ce que j'ai enregistré, mais je vais enregistrer d'une façon presque un peu naïve. Je laisse aller mon oreille. Des fois, c'est même pas mes idées. Des fois, c'est les idées des artisans. Par exemple, Bois, c'est un EP qui a été fait à partir d'un sculpteur qui s'appelle Thierry Martenon, qui m'a fait visiter son atelier. Et donc là, il me dit « Ah, j'ai une machine, peut-être ça fait ça, le son du marteau sur le maillet, etc. » C'est une rencontre. On enregistre les sons de façon un peu à l'intuition. Et après, j'écoute et je me dis, bon, en fait, y a peut-être un fil rouge ou un son qui peut prendre le dessus sur les autres et travailler comme ça.
Joub, à quelle heure tu passes ce soir ?
Bah là, je passe à 20h, hein,
c'est bientôt. À 20h, c'est bientôt. On va te laisser aller te préparer et on va écouter une de tes musiques qui s'appelle « Vélo ».
Ça tombe bien. Avec plaisir, c'est le morceau le plus techno. C'est quand même une musique qui tend vers la techno. Et ça a été fait à partir des sons que j'ai enregistrés pendant une tournée à vélo l'été dernier.
Ok, merci beaucoup Joub.
Merci à vous.
Et bon concert.
Merci beaucoup.
Au revoir. Et nous sommes toujours en direct à la Halle au Grain pour le festival, la quatrième édition du festival Génération Climat. Le direct jusqu'à 20h, mais bien sûr la soirée se poursuit et la semaine aussi, puisque le festival dure jusqu'au 21 janvier. Je rappelle que vous pouvez voir des spectacles, des travaux d'élèves et d'étudiants, des expositions, et bien sûr les temps d'échange et de réflexion autour des enjeux environnementaux sont le cœur de ce festival. Nous ont rejoint au micro 4 étudiants de l'école de la nature et du paysage pour le projet La vie des places. Étudiants de deuxième année, Pierre et Maloïs, étudiants de troisième année, Alexandre et Maude. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, première question directe.
Allez.
Je ne sais pas, vous voyez qui veut parler en premier pour expliquer un petit peu le projet, hein. Mmh. Allez-y, lancez-vous.
Qu'est-ce que la vie des places,
hein? Voilà.
Alors en fait, on a un peu deux approches différentes de ce projet, entre la deuxième année et la troisième année. Donc peut-être que vous pouvez commencer par un peu ce que vous avez fait en deuxième année.
Donc nous, en deuxième année, on a réalisé tout d'abord un arpentage où on a visité Blois pendant toute une journée, où on se déplaçait assez librement, on avait des points de rendez-vous et on devait expérimenter Blois. Et suite à cet arpentage, du coup, on a réalisé une carte collective, puis on a choisi le site de projet où on voulait pouvoir agir. Et à partir de ça, on a entamé une démarche de projet. Chacun sur son site, on a décidé de nos actions, de nos problématiques et ce qu'on voulait changer. Et à partir de ça, du coup, on a réalisé des esquisses et après on a donné à voir un projet qu'on a présenté face à nos professeurs ensuite.
Quand on arrive à la Halle au Grain, sur le sol, il y a d'énormes cartes. Ce sont des cartes de deuxième et de troisième année ou que les deuxièmes années?
Alors en fait, il y a une grande carte sur la gauche quand on arrive, qui est une carte du coup de diagnostic un peu sensible qu'ont réalisé les deuxièmes années à la suite de leur arpentage. Et à la droite, c'est une carte de détail, en fait un relevé de détail, donc un plan, qui reprend tous les éléments qu'on a pu observer sur la place de la Halle au Grain, donc réalisé par un groupe de 5-6 élèves de troisième année.
D'accord.
En troisième année, ce qui diffère, c'est qu'on a choisi chacun des places différentes et on a sélectionné différentes places et on a travaillé par groupe de 5-6 personnes sur chacune des places. Et on a fait du coup des relevés sur les différentes places.
En fait, l'exercice La vie des places en troisième année a pris une forme différente puisque en troisième année, à l'école de la nature et du paysage, on aborde beaucoup plus l'espace urbain et l'espace public dans la thématique de toute l'année. Et en atelier de paysage, de projet de paysage, ça se traduit par une approche notamment de l'espace public. Et donc ce premier semestre, nos professeurs ont choisi la forme archétypale un peu de la place pour donc l'aborder avec nous. Et pour ce faire, on s'est appuyé sur différentes places dans Blois, sur lesquelles on a travaillé en groupe. D'abord avec un diagnostic individuel, où on a choisi des axes un peu précis pour orienter notre diagnostic. Donc par exemple, ça pouvait être les usages ou aussi un peu les formes urbaines qu'on y trouvait, ou les flux, ou enfin tout ce qui pouvait être un peu plus relatif, ou l'histoire aussi de certaines places. Et à partir de ces diagnostics individuels, on a choisi des sites qui pouvaient avoir certains enjeux de transformation, dont la place de la Halle au Grain faisait partie. Et c'est pour ça qu'on retrouve ensuite le plan de détail qu'on a réalisé en groupe au sol. Mais en fait, c'est un extrait de plusieurs travaux qui ont été réalisés pour 6 places en tout.
Pour ouais. Revenir à vos travaux d'arpentage, qu'est-ce que c'est qu'un travail d'arpentage pour nous? On ne sait pas.
Pour parler d'un travail d'arpentage, c'est un peu quelque chose de très sensible. Ça va être sur notamment des ressentis, que ce soit physiques. Donc ça peut être des ressentis de matières différentes, ça peut être des ressentis dans notre corps. Ça peut être aussi de la collecte, ça va être ce qu'on voit. Donc il va y avoir du dessin. Il va y avoir, pourquoi pas, on a travaillé sur le son aussi. Comment est le son dans la ville. On a aussi du coup la récolte et tout ce qui est aussi du coup croquis et pourquoi pas des coupes, des ressentis topographiques. Donc ça passe vraiment par plein de choses, mais c'est très personnel sur la carte. Et on avait tous un petit carnet en fait pour se balader comme ça, et cette carte nous a permis de mettre en commun tous ensemble cet arpentage et de créer tout un circuit qui a été fait, qui a été décidé un petit peu auparavant, même s'il y a quelques petits détours qu'on peut voir. Cet arpentage, il permet d'avoir une carte qui est complètement immersive et où on peut aller retrouver plein de détails sur une balade qui est du coup une balade active, dynamique et qui donne plein d'éléments pour la suite du projet qui nous a lancé en fait dans le projet.
Mais, pour bien comprendre, est-ce que à la base c'est un projet que vous avez proposé ou ça fait partie du programme entre guillemets de votre cursus?
Du coup ça s'inscrit dans notre programme, dans notre cursus. Cette balade et la demande de projet était quelque chose de demandé, mais suite à ça, le lieu du projet était totalement libre et l'action qu'on menait sur ce lieu était totalement libre et choisie par chaque élève individuellement.
Comment ça s'articule ce projet avec eh ben justement la problématique du climat ou le questionnement autour des enjeux environnementaux? C'est quoi le lien que vous faites entre les deux? S'il y a un lien, peut-être qu'il n'y en a pas.
En fait, dans notre démarche d'étudiants en paysage aujourd'hui, et même dans la démarche des paysagistes concepteurs, c'est quelque chose qui est quasiment intrinsèque au paysage. On est obligé de prendre ça en compte. Et d'ailleurs, on le fait avec plaisir parce que c'est vraiment aussi souvent des motivations pour réaliser des projets. Et du coup, c'est toujours quelque chose qu'on prend en compte, mais c'est pas forcément ce qui va guider tout de suite notre enjeu aussi au premier abord, vu qu'il y a énormément de choses à prendre en compte aussi dans l'espace, dans le contexte notamment, et dans chaque site, tout ce qui va s'y appliquer sera différent. Et donc la façon dont on va pouvoir apporter quelque chose, notamment avec les enjeux climatiques aujourd'hui, ça va être totalement différent pour chaque espace, et ça va être guidé... par justement ces arpentages où on va avoir quelques sensibilités et on va faire beaucoup avec ce qui est déjà là en fait, avec le présent. Et donc quand les deuxièmes années ont pu déambuler dans Blois et passer dans certains espaces importants, notamment pour la biodiversité comme le parc de la Roue, ils ont pu retrouver des choses importantes pour l'environnement qui vont vouloir aussi ensuite prolonger ou alors s'appuyer dessus. En fait, on prend plus des espaces qui nous servent comme des bases. Et ensuite, les enjeux climatiques viennent, enfin, et de l'environnement en général, et tous les enjeux écologiques et de biodiversité qui nous sont vraiment proches et importants pour nous, on vient ensuite un peu les incrémenter dans nos projets et dans nos propositions, et vont orienter des enjeux. Et ensuite, guider un projet sans forcément être le projet à part entière.
Est-ce que je pose des questions candides, hein, voilà, quand on ne connaît pas. Comment intervient la place de l'humain, justement, dans vos recherches, dans vos expériences, dans l'arpentage? C'est-à-dire que est-ce que vous pensez uniquement paysage ou est-ce que vous pensez aussi circulation des êtres vivants et des êtres humains?
Bien évidemment, on prend en compte tous les usages et l'humain en fait partie, et comment améliorer le cadre de vie des habitants qui sont situés juste à côté. Et c'est par le projet de paysage, en tirant les grandes ficelles des enjeux qu'on a eu avant, qu'on réalise un projet qui va permettre d'améliorer le cadre de vie de chaque habitant ou même passant. Et comment concilier aussi bien les flux véhicules et la place du piéton? Parce que, par exemple, pour certaines places, il y a la présence de la voiture qui est très forte aujourd'hui. Et comment on peut réintégrer plus de place pour le piéton tout en conservant cette place pour le véhicule? Et c'est vraiment des problématiques importantes aujourd'hui. Et pour revenir sur la question de la place de l'animal en ville, c'est quelque chose qui est à mon sens et pour, je pense, tous les étudiants de cette école, très important, avec par exemple pour certains qui ont travaillé dans le secteur de la bouillie, avec la place du castor, des animaux, et comment les animaux peuvent franchir les différents espaces. et pas uniquement les humains.
Excuse-moi, est-ce que tu peux rappeler ce que c'est quoi justement la bouillie? Parce que c'est vrai que c'est un exemple intéressant quand même.
Le secteur de la bouillie à Blois, c'est côté Blois-Vienne, et c'est un déversoir de la Loire en cas de crue. Il y a une rupture de digue qui est située à un endroit et qui du coup inonderait tout un secteur pour préserver les habitations situées dans Blois-Vienne.
Vraiment, c'est passionnant, mais on est obligé de continuer cette émission parce qu'il faut qu'on rende l'antenne bientôt, malheureusement. Mais en tout cas, on vous remercie beaucoup pour vos éclaircissements parce que c'est vraiment un projet. Alors, c'est un projet qui va se terminer bientôt, là, à la fin de l'année ou,
C'est déjà rendu depuis décembre.
C'est déjà rendu, ça y est.
Oui.
D'accord. Bon.
On est passé sur des nouveaux sites de projets. En troisième année, on est dans Grand Paris Sud, au niveau du Carré Sénart. Et les deuxièmes années ?
Nous, on est à Aubigny-sur-Nair et on a un projet aussi avec la ville.
Très bien. Écoutez, plein de belles choses à vous. Bonne continuation. Merci encore.
Merci beaucoup.
Et merci d'être venu témoigner.
Ouais. Merci.
Merci.
Bonsoir et bienvenue. Non, je l'ai déjà dit, je ne le redis pas deux fois, d'accord, ok. Mais bonsoir à celles et ceux qui nous rejoignent sur Studio Zef, un Studio Zef qui est en direct ce soir à la Halle au Grain, donc jusqu'à 20h, pour le festival Génération Climat. Vous pouvez venir voir des expositions, des spectacles et des rendez-vous d'échange et des curiosités qu'on ne voit pas ailleurs. Oui, 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 vous pouvez faire ça. Mmh. Et donc, jusqu'au 21 janvier, on vous attend. Et puis ce soir, c'est pas fini, la soirée n'est pas finie.
Non, Sophie, la soirée n'est pas finie, puisque après notre intervention, notre plaisir d'accueillir des invités qui ont des choses très riches à nous raconter, il y aura un concert animé par Joupe que nous avons interviewé il y a quelques minutes.
Voilà, et nous ont rejoint. Sur le plateau, Sandrine et Marie-Laure, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Le collectif Mumosa, c'est ça?
C'est ça. Oui, merci pour l'invitation. Donc, Marie-Laure et moi, on fait partie effectivement du collectif Mumosa. Mumosa, c'est la mosaïque qui fait sa mu, pour bien retenir et pas confondre avec Mimosa. On est à Saint-Pierre-des-Corps. Dans une friche industrielle qui s'appelle les Ateliers de la Morinerie. Et on a créé ensemble, avec Marie-Laure et une autre collègue, mosaïste, ce groupement de recherche autour du réemploi des matériaux de la construction. En fait, avec l'objectif de repenser ces questions-là, de ressources, d'accès aux matériaux, de comment ces matériaux-là vont avoir un impact sur nos sociétés ou notre environnement, de les repenser à l'échelle de l'artisanat et de l'art, et d'en faire des activités de sensibilisation auprès des publics.
Quels sont ces matériaux auxquels vous faites allusion?
Ah oui, alors on fait allusion aux matériaux qui sont utilisés donc dans la construction, briques, béton, ardoises, puisque nous, par notre sensibilité de mosaïste au départ, on travaille donc en lien avec l'architecture, et donc on est proche de ces matériaux-là. Et traditionnellement, la mosaïque, c'est plutôt du marbre, donc un matériau noble, et puis des pâtes de verre, des émaux, des matériaux qui sont très coûteux, qui sont fabriqués à partir de silice chauffé dans des fours, etc. Et ces matériaux-là, donc c'est le matériau... on s'en éloigne un petit peu dans le projet Mumosa, puisque aujourd'hui on s'intéresse surtout à ce qui nous entoure, et c'est plutôt donc du béton, de la brique, de la tuile, de l'ardoise. Et qu'est-ce qu'on peut en faire? Est-ce qu'on peut les valoriser à travers le prisme de la mosaïque, par la fragmentation, par des nouvelles façons de les agencer, etc., et de donc permettre aux gens d'avoir un nouveau regard sur cette matière grâce à la mosaïque.
Vous travaillez sur une fragmentation qui est assez fine ou plutôt sur des blocs plus gros?
Alors, le principe de la mosaïque, c'est de fragmenter, mais il n'y a pas de limite. C'est comment on appréhende la mosaïque. Si on la voit de près, on peut faire. Si c'est des petits formats, on va travailler sur des petites tesselles, des petits fragments. Mais plus la mosaïque est distante du spectateur, plus on peut travailler sur des gros formats. Et donc, en fait, il n'y a pas... mais quand même, en règle générale, on est sur entre 1 cm et 5 cm.
Oui, mais on a fait autrement. On a fait aussi des mosaïques XXL, oui. Et notamment en travaillant avec la COVED dans le Lochois, qui, lui, fait du recyclage de matériaux, donc qui prend tous les déchets de la région, enfin de la région du département. Et avec lui, en fait, on a sélectionné un certain nombre de matériaux du déchet du bâtiment, qui sont des blocs en fait entiers, très importants. Et c'est avec ses outils et son partenariat, donc des grues, etc., qui nous ont permis de réaliser une sorte de mosaïque XXL, qui est en fait une sculpture paysagère.
Oui.
Oui, c'est effectivement, si vous en êtes arrivé à utiliser les grues, c'est quand même, on imagine, quelque chose de gigantesque.
Non, c'était juste pour déposer les matériaux sur le terrain sur lesquels on allait réaliser notre notre masse. En fait, oui, il faut se représenter une, peut-être une maçonnerie paysagère, quelque chose comme ça, mais qui était fabriquée à partir de déchets de parpaing, de pierres, de
pierres tombales,
voilà, qui oui. finissent en fait la covette. Oui, c'est un organisme qui récupère toutes les inertes dans les déchetteries. Donc tout ce qu'on met dans la benne à inerte, y compris donc cette pierre tombale qui était arrivée là, on les a récupérés, on en a récupéré une partie et ça a composé une petite maçonnerie paysagère à Beaulieu-les-Loches.
D'accord. Et donc par rapport à Blois, vous êtes intervenu autour d'une mosaïque qui s'appelle Waterfall, c'est ça?
Oui, en fait, on est intervenu dans le cadre aux arts lycéens. C'est un dispositif de la région qui permet à des enseignants d'inviter des artistes à intervenir dans une classe. Et donc, nous, on est intervenu avec les terminales STD2A du lycée Camille Claudel. Et avec eux, on a accompagné le projet de renaturation du lycée. C'est-à-dire, il y avait un paysagiste, Étienne Mallier, qui... intervenait pour désenrober, enfin casser de l'enrobé, casser, permettre à l'eau en fait de pénétrer à nouveau dans le sol, déminéraliser, pardon, voilà, oui. C'est le bon terme. Et donc
oui, parce qu'il y a un problème de chaleur dans les lycées. Ouais. Donc voilà, le sujet c'est comment on fait avec ces lycées qui deviennent invivables. Et on va dire que les lycées, les collèges et les primaires commencent à attaquer le bitume autour pour pouvoir respirer enfin.
Mmh. Voilà.
Et donc, vous avez exploité cette déminéralisation du sol pour en faire quelque chose.
Oui, en fait, donc, l'idée, c'était aussi de faire voir aux étudiants qu'est-ce qui se passait dans leur lycée, de leur faire parcourir le lycée, de voir qu'est-ce qu'était en train de mettre en place le paysagiste et comment on accompagne ça avec une œuvre. Donc, ils ont travaillé sur la question de l'eau, d'où le nom Waterfall. Ils ont identifié un espace qui était peu utilisé, peu fréquenté par les étudiants, et ils ont imaginé cette cascade. On les a accompagnés pour que cette cascade se transforme en une grande mosaïque. Donc, ils sont devenus de concepteurs à faiseurs, quoi, ouvriers, donc ils sont passés à la phase de fabrication. À partir de déchets, donc des matériaux de la construction, du carrelage, du marbre, des ardoises, etc.
Oui, parce que le marbre, on peut le trouver, enfin c'est un matériau noble, mais on le retrouve aussi dans les déchetteries parce que ça fait partie de certains meubles anciens ou bien des cheminées. Mais on le retrouve aussi dans les marbreries parce que le funéraire a des déchets également, enfin...
Oui. Oui, du déchet, c'est pas difficile à trouver.
En fait, du gisement en ville, il y en a beaucoup. Alors, en fait, notre ville est un gisement en soi.
Une dernière question avant le concert de Joub. Est-ce que vous avez rencontré l'adhésion immédiate des élèves à ce projet, ou ça a été un petit peu surprenant pour eux, difficile d'accès? Comment ça s'est passé?
La première rencontre, on a fait un cours théorique avec un autre artiste qui est intervenu avec nous, qui s'appelle Sébastien Zener, qui est spécialiste aussi du paysage en art contemporain. Et non, je crois qu'à ce moment-là, quand on leur a exposé un petit peu ce qu'on fait et notre point de vue aussi sur l'espace public, comment on doit le voir... ils nous ont pris pour des ovnis. Hein.
Oui, et surtout qu'on n'arrivait pas avec un projet tout fait. On leur a pas dit on va faire ça. Et il y avait vraiment l'idée de collaborer avec eux et donc de les impliquer dans la réflexion. Et je pense que ça les a peut-être leur a fait un peu peur au début. Et puis en fait, ils se sont très bien débrouillés. Et je pense qu'au final, ils étaient contents.
Ouais. Tout le monde s'est détendu et ça a donné donc
un très beau projet.
Un beau projet qu'on peut. Donc voir sur votre stand,
il y a un petit stand explicatif avec des photos du processus de conception et de réalisation.
Et de réalisation, très bien. Eh bien. Merci beaucoup à toutes les deux d'être passées
merci
au micro de Studio Zef. Bonne continuation et bonne soirée.
Merci.
Merci.
Sophie, on va rendre l'antenne, c'est l'heure. Hein.
Ah, c'est l'heure, c'est l'heure. Tout à fait, 20h, tac. Ouais.
Il y a le concert de Joub. Vous pouvez tout à fait nous rejoindre à l'Halle, au Grain, pour danser et pour expérimenter Voilà, et ça y est, ça commence. Sarah, merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt à la radio. Salut.
Bonjour tout le monde.
Et maintenant, au micro, nous avons... Tu peux te présenter ?
Il faut que je parle de l'amour.
Vous dites, vous dites le mot, là, l'amour.
L'amour.
Ce soir, sur les ondes.
Vous êtes dans vos voitures, derrière votre poste radio.
Ah oui, ça va être enregistré.
Ça fait 15 ans qu'on est qu'au Studio Zef.